C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Suivez votre émission chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter de lundi à jeudi à 21h et samedi à 11h05.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien Okapi Service. La journée mondiale de la vie sauvage est célébrée le 3 mars de chaque année. Maintenir toutes les formes de vie sur Terre, c'est le thème retenu pour l'édition 2020. La journée mondiale de la vie sauvage 2020 pour objectif de souligner les valeurs de la biodiversité et l'importance de l'utilisation durable pour les êtres humains et la planète en concordance avec les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies. Quelle est l'importance de la protection de la biodiversité? Nous en parlons avec nos deux invités qui sont ici au studio. Il s'agit de Monsieur Deo Kujirakwinja, il est directeur technique à l'ONG WCS, et de Monsieur François Sandrin, qui est le coordinateur du programme de gestion durable de la faune sauvage au sein des WCS. Bonjour à vous deux et bienvenue à nouveau de prendre part à ces magazines de la vie au quotidien. Monsieur Deo, que devons-nous comprendre par les concepts biodiversité?
Pour les concepts biodiversité, on parle de la vie sur Terre, de la biodiversité, bio qui signifie vie, et la diversité comme différentes variétés et variables des êtres vivants.
Monsieur François, et généralement les concepts biodiversité, on emploie ces concepts qui va de pair avec les concepts de protection de la faune sauvage. Et pourquoi cette corrélation?
Voilà, souvent la faune sauvage et la biodiversité sont souvent donc associées. Dans le sens où leur protection est... D'accord. La protection de la faune sauvage est nécessaire à la protection de la biodiversité.
Alors, M. Deo, quel état de lieu faites-vous de la protection de la biodiversité en RDC?
La protection de la biodiversité en RDC porte... C'est une question ambivalente. Ambivalente parce que la RDC détient une variété d'espèces à travers, au niveau de l'Afrique, et plus spécialement dans les bassins du Congo. La RDC dispose des aires protégées qui ont été érigées pour protéger cette mégafaune, mais aussi des espèces endémiques qu'on ne retrouve qu'en RDC. Oui. Malheureusement, il se fait que ces aires protégées et ces espèces sont menacées par les activités humaines, mais aussi par les faits de la guerre, les effets de la guerre qu'on a connus pendant les trois dernières décennies. Ce qui fait que pour certaines aires protégées, on trouve que les espèces, ou alors les animaux, si je peux utiliser ces mots, sont en déclin frappant. Éléphants en déclin. Hippopotame, la même chose. Okapi, la même chose. Certaines espèces qui se maintiennent, c'est peut-être seulement les gorilles des montagnes dans les Virunga, mais aussi les chimpanzés à travers la RDC, pour certaines zones.
Merci beaucoup, Monsieur François Sandrin. Vous êtes le coordinateur du programme de gestion durable de la faune sauvage. En quoi consistent exactement ces projets?
Alors, le programme de gestion durable de la faune, qu'on appelle le programme SWIM, pour son acronyme anglais, c'est un programme mondial qui est implémenté dans plusieurs pays. C'est une initiative du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique, qui est financée par l'Union européenne et mise en place par un consortium de quatre partenaires techniques, la WCS, la FAO, le CIFOR et le CIRAD. C'est un projet qui vise à développer des modèles de gestion durable de la faune réplicables, chaque site ayant sa spécificité. Et en RDC, notre modèle, c'est la gestion durable de la faune à l'intérieur et à l'extérieur des aires protégées. Et il est mis en place au niveau, dans la province d'Ituri, au niveau de la réserve de faune à Okapi.
Qu'est-ce qui sera fait de concret dans le cas de ces projets sur terrain?
D'accord, donc en partant des problématiques... Que la faune sauvage est donc utilisée par des millions de personnes dans les milieux ruraux et qu'on observe, comme l'a dit Deo, un déclin de cette faune, notamment dû un des facteurs, c'est la surchasse. Afin de donc protéger la sécurité alimentaire et le bien-être des populations tout en conservant ces espèces sauvages, il faut une adaptation de certaines politiques qui permettront la mise en place de cette gestion durable de la faune, mais aussi générer des nouvelles opportunités de génération de revenus pour les populations locales, pour pallier à la chasse, et également développer des plans de chasse durables avec des techniques acceptées.
Monsieur Déo, on dit également, il y a des sources qui disent que les prélèvements de la population locale des ressources au niveau des aires protégées à proximité n'a pas vraiment d'incidence sur la conservation de la nature. C'est plutôt la demande à grande échelle des grandes villes qui serait à la base de la pression assez élevée sur les écosystèmes des aires protégées.
Je crois qu'il faut considérer cette question dans les deux sens. Mmh. Le premier sens, c'est que au cas où c'est une chasse de subsistance qui est réglementée, ça aurait peu d'impact. Mais je ne dis pas qu'il y a zéro impact. Par contre, avec la croissance démographique, avec les villes avec l'urbanisation qui est en cours, il devient de plus en plus difficile de différencier la chasse de subsistance et la chasse commerciale.
Monsieur François, c'est dans cette approche que vous allez initier ces projets sur terrain, donc faire un effort pour concilier utilisation des ressources à proximité dans les aires protégées et protection également des écosystèmes dans les aires protégées.
Oui, voilà. Donc le programme s'appuie sur des villages, des communautés locales dans et autour de la RFO. Mmh. Et donc le but, c'est de pouvoir garantir à ces populations rurales de pouvoir utiliser dans les générations futures leurs ressources en faune. Comme l'a dit Déo, l'urbanisation est une menace pour la faune sauvage quand elle constitue une forte demande en viande de brousse. Nous allons aussi dans le programme adresser cette problématique en essayant de réduire en milieu urbain la consommation de viande de brousse.
Et est-ce que dans ces programmes, vous comptez également adhérer à la population locale pour l'appropriation de cette approche? Parce que si les communautés locales ne sont pas suffisamment informées et sensibilisées sur les bien fondés du projet que vous allez lancer, ça sera compliqué aussi pour qu'ils adhèrent.
Exactement, oui. C'est quelque chose que le programme cherche vraiment à développer. On suit ce qu'on appelle l'approche du CLIP, le consentement libre, informé et préalable. Ce qui fait qu'on associe vraiment les communautés avec lesquelles on travaille à toutes les étapes du projet.
Monsieur Déo, quand vous allez sur terrain, quels sont les constats qui se dégagent? Est-ce que la population qui vit à proximité des aires protégées comprend l'importance qu'il y a à préserver, à protéger ces aires protégées?
La population locale en elle-même, c'est le partenaire principal des aires protégées. Parce qu'ils identifient ces aires protégées comme étant leur espace culturel, comme étant leur identité socioculturelle. Même s'il peut y avoir certains membres des communautés qui peuvent ne pas être contents, mais dans l'ensemble, les communautés reconnaissent l'importance de ces aires protégées. Quitte maintenant à associer à cela deux fois la faiblesse de l'appui au développement, qui fait qu'à chaque instant, ces communautés se rabattent sur les aires protégées et perçoivent les aires protégées comme étant un blocage à leur développement.
Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 099-706-63-94 et au numéro 081-890-63-94.
Après sa création, Radio Okapi tient à se rapprocher davantage de ses auditeurs et internautes. Nous avons pris bonne note de vos remarques, suggestions et propositions, et il est donc temps d'agir. Votre radio vous propose désormais, à partir de ce lundi 2 mars à 16h05, le décrochage local de Kinshasa, intégralement en lingala avec la chronique Inforoute. Retrouvez-nous également sur différentes plateformes médiatiques, Facebook, Twitter et Instagram. Radio Okapi, pour mieux vous écouter et vous servir.
Nous allons au standard pour donner la parole à notre premier auditeur. Il appelle depuis la ville de Bandundu. Il s'agit de M. Malonga. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour M. Marcher et bonjour à notre invité.
C'est plutôt Tati qui est aux antennes. Nous parlons de la protection de la faune sauvage. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous allez m'excuser d'ignorer votre nom, Tati Mapou.
Je vous en prie.
Ok, ça va. Bon, la question là, mais un peu de commentaire d'abord. Puisque moi, je suis de l'environnement. Je travaille à l'environnement. Souvent, nous nous disons dans ces problèmes. Je viens de suivre notre invité qui dit que c'est la population qui est le premier paternel. Mais ce que nous nous trouvons ici, c'est très problème. Puisque lorsque nous ouvrons un site de reboisement, puisque c'est l'air aussi protégé par l'État, nous nous butons par des sérieux problèmes avec la population.
Et lequel?
Vous verrez que le site est bien encadré et bien vraiment disposé pour le travail. Mais s'il y a une partie où la population faisait ses occupations, en tout cas cette population prétendra de nous attiser à l'État. Or, nous nous faisons là en titre de l'État et nous aurons un grand problème. Il y a un site qu'on avait incinéré là où il y avait déjà des acacias et des arbres fruitiers vraiment en bonne croissance. On avait incinéré ça, coupé et saboté. Alors, on nous disait que nous leur avons dérangé et qu'est-ce qu'ils vont continuer à travailler. Alors, est-ce que nous avons à leur donner de la compensation par leur forêt? En tout cas, ça nous a coûté. Alors, c'est ce que je veux demander. Les aires protégées, oui. Je viens de suivre aussi, au Moyen-Âge, cette radio aussi, il y a quelque part là, il y a le cépanger qui cause vraiment des mortalités et des blessures à la vie humaine.
Oui, c'est dans les Katanga de Mambré.
Oui. Alors ça, l'autorité locale de là a interdit de ne pas menacer cet animal. La population dit qu'entre animal et nous, qui est le plus important? Donc, ce sont les animaux qui sont mis en avant-plan que nous, la population. Alors, c'est un problème vraiment de sensibilisation d'abord. Vous l'avez demandé, Tati Makou, de sensibilisation. Il faut que la population se trouve dans cette situation. Vous voyez le projet que notre invité vient d'expliquer. Oui, ce projet, ça va commencer. Mais ça va se limiter à de sérieux problèmes. Les agents qui seront exécutifs à ça, en tout cas, qui se préparent à des menaces populaires. Puisque chaque fois, si la population est toujours dans les besoins, en tout cas, de tels projets auront toujours des problèmes sur terrain. Puisque c'est la population qui se trouve là où les aires protégées seront ouvertes. Alors, c'est sauté qu'ils doivent avoir des avals vraiment prioritaires pour que ces aires soient réellement protégées. Mais si la population n'est pas convaincue de ça, en tout cas, on ne parlera pas des aires protégées, mais plutôt, on parlera vraiment des champs de bataille entre ces agents-là et la population, comme nous le vivons avec les agents de 10 SN et d'autres populations.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Malonga. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. Allons cette fois-ci à Mbandaka pour donner la parole à Chico. Bonjour Chico et bienvenue dans Capi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à nos deux invités?
Oui, bonjour Tati. Bonjour aussi aux deux invités qui sont avec vous au plateau. Je pense que je les ai bien suivis lorsqu'ils expliquaient l'importance de la protection de la biodiversité. Mais on doit savoir que celui qui est censé vraiment à protéger la biodiversité, c'est tout le monde. Mais la grande partie, c'est la population rurale, la communauté locale. Mais lorsque la population ou la communauté locale n'a pas assez d'informations partant de la conservation de la biodiversité, est-ce que les deux invités pensent que c'est une réussite ou c'est un échec? Parce qu'à mon humble avis... Moi, je vois que notre politique, la politique environnementale de la RDC n'est pas bonne. Étant donné que s'il s'agit des périodes de recouvrement, prenons par exemple Tati, vous verrez que la population chasse toujours. C'est-à-dire que la population n'a pas les informations concernant la période de recouvrement. On dit à tel mois, il ne faut plus chasser parce que les animaux sont maintenant en période de la gestation. Il ne faut plus chasser. Mais vous verrez, la population chasse toujours. Lorsque nos projets qui cadrent de l'environnement n'arrivent pas à sensibiliser la communauté partant de la conservation, est-ce que cela peut, ou soit c'est une réussite ou c'est un échec? Et les invités peuvent parler aussi.
Oui, Monsieur Chico, moi je vous pose une question. Vous qui vivez en Bandaka, est-ce que vous sentez vraiment que la faune sauvage est menacée dans la province de l'Équateur?
Oui, Tati, c'est menacé d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple simple. La construction de la ville de Mbandaka, nous avons trois grands quartiers. Mbanda 1, Mbanda 2, Mbanda 3. Mm. Lorsque les Blancs étaient venus, il a construit Mbandaka 1 en premier lieu, Mbandaka 2 en second lieu, en troisième lieu, il a construit Mbanda 3. C'est-à-dire, à l'intervalle, si vous prenez ceux qui savent Mbandaka, l'avenir de la salle derrière l'issue, il y a une zone tampon. Alors, le rôle des gens tampons était de séparer des quartiers. Mais lorsque la population n'a pas l'accès sur l'importance de la zone tampon, là, on a construit des maisons, mais ils ne savaient pas la zone tampon, c'est une zone qui relie des quartiers qui a une importance environnementale, la séquestration du carbone, et vous allez trouver certaines espèces aussi au milieu de la zone tampon. Mais c'est détruit aujourd'hui. Vous verrez, c'est ça une menace. Nous avons, telle que la pratique de pêche avec les moustiquaires. C'est une grande menace qui détruit aussi même les œufs des poissons. La faune est tellement, et la flore, c'est tellement menacée ici en Équateur. L'exploitation illicite des bois et des tatis. C'est menacé vraiment. Là, il faudrait renforcer les mécanismes de sensibilisation au milieu rural afin que nous puissions vraiment protéger notre environnement. On voit aussi la croissance démographique.
Merci beaucoup, Monsieur Chico. Oui, Monsieur Chico, merci beaucoup. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. Allons cette fois-ci à Kananga pour donner la parole à Monsieur Kachai. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons de la protection de la faune sauvage à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités qui sont ici au studio, qui développent un projet dans le cadre de la protection de la biodiversité ici en RDC?
Merci beaucoup Monsieur Tati. Je voulais tout simplement demander à nos invités, d'abord au premier là, de revenir sur les termes simples des aires protégées. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est les aires protégées. Mmh. Il peut, en termes simplifiés, nous dire qu'est-ce qu'on appelle aires protégées. Deuxièmement, c'est par rapport à la pratique du braconnage. Monsieur Tati, vous savez que nous faisons face aux braconniers qui viennent, qui font du n'importe quoi dans certains milieux. Alors, c'est pourquoi je voulais au moins demander quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour que peut-être, s'ils peuvent sensibiliser ces braconniers-là, à ne pas toujours braconner pour déranger nos bêtes qui vivent, par exemple, en divan. Qui sont aussi protégés. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui.
Je vous en prie, Kachai. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Retournons cette fois-ci à l'Équateur pour donner la parole à M. Platini Mbombo. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci, bonjour. Bonjour l'invité. Bonjour tout le monde.
Allez droit au but. Quelle est la question ou quelles sont les questions que vous avez à poser à nos deux invités qui sont ici au studio?
Merci beaucoup, Tati. Je crois que je ne serai pas trop long parce que l'ami qui veut dépasser. Vraiment, je le salue aussi en passant parce qu'il a tout ramassé. Il a parlé aussi des choses qui est vraiment très important. Alors, Tati, moi, je voudrais justement parler parce que la thématique d'aujourd'hui est très importante. C'est une loi à l'Équateur, la province qui est vraiment entourée de l'eau, de forêt par ce point-là. Et je voudrais rapidement parler, rappeler une chose parce que je connais très bien la province de la Tuapa. L'ancien nom, c'était la district de la Tuapa, mais aujourd'hui, la province. Il y a un parc, ce qu'on appelle le parc national des Salonga. Comme vous le savez très bien, c'est au moins le troisième parc à République démocratique du Congo après Garamba. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, Tati, moi aussi, je vous parle, j'étais là à tout moment. Souvent, j'accompagne les gens de la OSS et aussi avec les gens de WWF. Souvent, quand on arrive sur le terrain, vous allez constater qu'il y a le blanc qui sont s'installés au fond de cette forêt-là pour chercher comment exporter le bien matériel. Je vous dis ici, parce que je ne peux pas citer les noms, mais il y a des organismes qui sont s'installés sur place pour exploiter le matériel.
Les biens matériels.
Le diamant, le coup, tout ça.
Ah, d'accord.
Donc,
je vous dis une chose. Parce que moi, j'ai vu un don qui est porté un sabot comme ça. Mais le sabot là, c'est un sabot satellitaire. Quand il marche comme ça, s'il y a le quoi, le brise, le diamant, ça commence à expliquer. Je le vis comme ça, je le prends les photos. Je lui ai dit, mais vous voulez aussi pour exploiter. Est-ce que ça, c'est votre pays? Lui dit que non, c'est déjà en partenariat avec le gouvernement, tout ça. Moi, je dis non, il ne faut jamais faire ça. Ces bottines-là, cette bottine qui est à milieu, je vous dis, c'est satelliteur qui détecte le matériel. Alors, vous aussi, je voudrais vous dire une chose, parce que les deux invités qui sont aussi là-bas avec vous, ils sont très bien placés par rapport à ça. Parce que l'environnement aujourd'hui, tout le monde vit que l'environnement est redit. Nous, en RDC, à Équateur, nous sommes très fiers parce que nous sommes entourés de l'eau, des forêts, qui vit mieux, et on vit de mieux de l'œil vraiment qui est naturel. Alors, si l'invité peut nous dire qui est réellement censé à garder les biodiversités, qui est censé, dès que l'État est là, mais l'État aussi est corrompu parce que les partenaires veulent nous donner l'argent, exploiter les matériels, exploiter là-bas chez eux, ça nous dérange. Il y a aussi des choses que ça se passe ici de la vie de Manaka à travers la province de l'Équateur. Pour moi, c'est grave. Alors, je voudrais que l'invité peut nous dire, parce que je sais que nous avons tout un ministère de l'environnement, nous avons toute une coordination de l'environnement, mais n'arrive même pas à faire le travail. Donc, raison pour laquelle on est vraiment bloqué. Et l'émission qu'on a fait aujourd'hui, je ne sais même pas si ça peut vraiment aboutir à prendre les gains de cause. Alors, si l'invité peut nous dire qui est censé bien sauvegarder, à bien garder, surtout le bien du Botswana à travers la zone de Bracélie. Vous rendez ce que je veux dire.
Merci beaucoup, M. Platini. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. M. Deo, commençons par M. Malonga qui a appelé des Banounouville qui posent les problèmes d'occupation des sols, peut-être dans les aires protégées, les communautés locales qui vont parfois faire les activités agricoles dans les aires protégées ou pratiquer la pêche. Et parfois, il y a un problème, il y a parfois des accointances entre les structures censées protéger ces sites et la population locale qui exerce ces activités, soit dans les aires protégées ou à proximité des aires protégées.
Oui, ma réponse va dans le sens des clips, comme l'a dit mon collègue, parce que on doit se rassurer que les activités qu'on mène impliquent les communautés, qu'on a informé les communautés, qu'on a discuté avec eux des avantages et des désavantages des activités qu'on va mener, mais aussi assurer que l'information est partagée sur une base régulière. Et ça peut éviter la suspicion des communautés vis-à-vis de ça. Deuxième élément, c'est la planification de l'utilisation de ces terres. Il se fait que dans notre pays, ce n'est pas souvent appliqué de dire, voilà, avec les communautés, on peut réserver des espaces pour les reboisements, des espaces pour l'agriculture, des espaces pour l'élevage et j'en passe, selon les différentes activités.
Les plans d'aménagement, ce qu'on appelle les plans d'aménagement dans les aires protégées et dans... Voilà.
Oui. Donc, pour moi, je pense que ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, il a donné aussi une activité de dire, il croit que la sensibilisation des communautés serait l'une des options qui doit être appliquée afin d'assurer que les communautés sont au courant de l'importance de la biodiversité, de l'importance des aires protégées, mais aussi des arbres. Je pense que c'est dans ce sens que j'irai. Même s'il y a aussi un rôle que l'État doit jouer afin d'assurer qu'il y a le respect des lois qui ont été édictées en matière de protection d'environnement et de la protection des sols.
Monsieur François, vous êtes coordinateur du programme de gestion durable de la faune sauvage. Par rapport au problème qu'a posé Malonga, que répondez-vous? Parce que parfois il y a des conflits entre les communautés locales qui vont parfois prélever certaines ressources dans les aires protégées ou faire la pêche ou la chasse parce que ils se disent c'est leur forêt, ils doivent aller prélever les ressources pour les vécus quotidiens dans ces aires protégées. Et si il n'y a pas une approche de sensibilisation, c'est la risque d'affecter les activités que vous menez sur terrain.
Oui, exactement. Je pense que même si les populations sont sensibilisées à l'importance de la biodiversité, à l'importance de la préservation des ressources et de la nature, il n'en reste pas moins que les populations rurales ont des besoins de subsistance. Et faute d'autres alternatives, elles vont aller prélever les ressources qu'elles ont à leur disposition et qu'elles considèrent comme les leurs, ce qui est légitime. Donc je pense que le grand défi qu'on a, et c'est une des choses qui, un des défis qu'adresse le programme sur lequel nous travaillons, c'est de proposer des alternatives viables, à la fois de génération de revenus pour ces communautés, et également comment de d'augmenter l'offre, par exemple en, en protéines animales domestiques. Et je pense qu'on ne peut réussir que à proposer des choses viables et adaptées au contexte, des choses qui vont durer dans le temps. On ne peut y arriver que en travaillant avec ces communautés.
Avez-vous déjà entamé les contacts avec la communauté locale, la société civile, pour qu'ils comprennent au fait l'approche et de votre côté aussi déceler les problèmes que rencontrent ces communautés locales afin de voir dans quelle mesure travailler en collaboration?
Effectivement, oui. Ce programme est encore à ses débuts, mais nous sommes en train d'établir pour commencer des lignes de base de la situation socio-économique. Et les prochaines étapes, ça va être donc d'approcher plus officiellement la communauté par rapport au design du projet. Qu'est-ce que eux attendre de ce projet et comment on peut travailler ensemble.
Monsieur Léo, il y a Kachai qui voulait avoir une idée exacte sur ce qu'on entend par les aires protégées, la biodiversité.
En fait, l'air protégé, c'est reconnu comme étant un espace qui est réservé pour la protection des espèces et des écosystèmes fragiles. C'est dans ce cadre que les gouvernements peuvent décider qu'une portion de la forêt, une portion de la terre, est protégé et reconnu comme soit parc national, soit réserve de faune, soit réserve naturelle. Donc, il y a différents types.
Un exemple concret, monsieur Léo.
L'exemple concret, il a donné, il y a quelqu'un qui a parlé du parc national de la Salonga. Qui est composé de deux blocs avec une zone tampon. Donc, cet espace, c'est une aire protégée parce que c'est déjà, on a donné un statut spécifique à cette partie. Ça ne peut plus être utilisé comme champ pour l'agriculture, parce que ça a un statut spécifique. À moins qu'il y ait un zonage, là, on va définir les différentes activités à mener au profit des communautés.
Il voulait également savoir quelle méthode efficace mettre en place pour décourager les braconnages.
Du point de vue classique, on recourt à l'application de la loi. Si on prend le cas des aires protégées, l'ICCN, qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, dispose des éco-gardes qui sont commis à cette tâche, d'assurer qu'ils doivent patrouiller dans la zone afin de décourager les braconniers et toute autre personne qui serait dans la zone sans autorisation. Deuxième élément, c'est comme le projet SWIM, ce sont des activités qui peuvent appuyer les communautés pour améliorer leurs conditions de vie. Troisième option, c'est d'assurer qu'on recourt à des alternatives, de dire, voilà, on sait que les gens ont besoin de protéines animales, mais peut-être qu'ils peuvent faire l'élevage
derrière les maisons,
et ça va combler ces déficits de protéines.
Voilà, monsieur François, il y a Platini qui voulait ça, il a posé une question. En fait, il a travaillé avec une ONG internationale sur terrain dans les parcs de la Salonga, et puis il a dit que certains membres, certains agents de cette ONG internationale exploitaient les ressources naturelles au lieu de protéger. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Bon, pas vraiment, je vais juste dire que... Ouais.
Peut-être les commentaires que je peux faire, c'est qu'on sait que les équipes qui sont basées dans les aires protégées, ce sont des ONG de conservation qui mènent des recherches, qui mènent des inventaires.
Ils peuvent prélever des données pour amener ces données-là au laboratoire pour des analyses approfondies.
Mais pas les ressources naturelles, pas les diamants, pas l'or. Ce qu'on fait, ce sont des spécimens. Il peut se faire qu'on a fait l'inventaire des oiseaux et on va prendre, on perçoit en face d'une espèce qu'on ne connaît pas encore, on est obligé de prendre ces spécimens pour l'amener au labo, là où il y a des chercheurs qui vont identifier cette espèce, afin d'assurer qu'on est sûr de ce qu'on est en train de compter. Parce que les chercheurs qui sont dans la forêt, ce n'est pas qu'ils s'isolent pour exploiter les ressources naturelles, je m'excuse, mais c'est plus pour assurer qu'ils font les suivis des différentes espèces.
Et également mener des études, parce que moi je me rappelle lorsqu'on est allé à l'Équateur, dans les territoires d'Ingendé, les chercheurs avaient également prélevé la boue dans les tourbières pour amener ces données au niveau de laboratoire afin de faire des analyses beaucoup plus approfondies.
Affirmatif.
Nous retournons au standard. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081 890 63 90. 94 et au numéro 081 706 63 94.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Gentil Oumanou, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aussi à nos deux invités.
Vous intervenez depuis la ville de Kananga et nous parlons de la protection de la faune sauvage à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection de la biodiversité. Et quelle est la question que vous avez à poser à nos deux invités qui sont ici au studio?
Merci de m'avoir accordé la parole encore pour la deuxième fois. Je voulais demander à notre invité. Nous avons deux espèces d'animaux. Nous avons les animaux domestiques que la population vit à côté d'eux. Il y a aussi les animaux qui vivent dans des forêts. Alors ma première question est de savoir quel type des animaux qu'on peut attirer la protection des biodiversités, c'est la première question. La seconde question est de savoir est-ce que ce programme est basé seulement sur la ville de Kinshasa, pourquoi pas dans d'autres provinces. Merci, c'est Gentil Oumanou depuis la ville de Kananga.
Merci beaucoup Gentil Oumanou, nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Donnons cette fois-ci la parole à monsieur Albert Koutolo, lui il est en Bandaka. Bonjour monsieur Albert.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à des invités.
Nous parlons de la... Oui, allez-y.
Je n'ai pas une préoccupation, mais j'ai une petite contribution étant qu'un environnementaliste à la formation. Premièrement, je dois rappeler aux différents auditeurs que la République démocratique du Congo, la conservation de la nature se consort au terme des aires protégées des espèces à sauvegarder et des superficies souffertes. En principe, à l'action de l'homme, elle est aussi le premier pays africain a marqué ses pas à l'histoire de la conservation de la nature avec la création du premier parc national de la République démocratique du Congo, le parc national du Virunga. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo, elle élargit le nombre des aires protégées et ses réserves naturelles a pour objectif conservation pour les besoins actuels et futurs, la diversité et l'intégrité de ces écosystèmes. Mais le malheur en est que, monsieur le journaliste, moi, je dois suggérer directement à l'État congolais d'organiser davantage les ateliers de sensibilisation de la population via la notion de la conservation de la nature et d'aider les respects des clauses, des cahiers de décharge, d'appliquer la législation pour éviter les conflits au sein des réserves naturelles ou des parcs nationaux. Et enfin, les autorités compétentes qui doivent garantir la vie de la population qui vit au sein des différents réserves protégées. Et enfin, c'est un problème qui concerne toute la population congolaise. Parce que là, nous avons l'Institut congolais. C'est un institut congolais pour la conservation de la nature. Parce que ça concerne tous les Congolais. Et à cet état-là, la population qui vit au sein des différentes aires protégées doit respecter ou utiliser rationnellement les ressources. C'est parce que pour que nous ayons une pérennité des ressources naturelles. Et si fait, je dois dire aussi aux gens qui entourent les différentes aires protégées que nous, les conservateurs, nous avons un adage qui nous dit ceci. Il est difficile, on a constaté que la détérioration des habitats compte parmi les menaces les plus graves. Or, nous, les experts en conservation, nous avons montré qu'il est difficile à conserver à côté d'une population pauvre. Quand nous sommes obligés de protéger la nature, et nous sommes obligés aussi de protéger la population qui habite ou qui entoure toutes les aires protégées. Et sur ce, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, ça concerne tout le monde. J'ai dit et je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, monsieur Albert Koutolo. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. Allons cette fois-ci, retournons au fait à Kinshasa, pour donner la parole à monsieur Paulin Kabanga. Bonjour, monsieur Paulin, et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis la part de Paulin Kabanga, plutôt, à Kinshasa, dans la commune de Sengalema.
Monsieur Kabangu, nous parlons de comment protéger la faune sauvage à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Oui, vraiment, le sujet de jeu est très préoccupant, vu que nous sommes en train de constater que la biodiversité est en train de perdre sa valeur. Je vous donne un exemple, peut-être. Moi, je suis de province de Haute-Ouélé, précisément à Iziro. Je vous donne mon exemple du territoire de Wamba. Vous constaterez que, pour donner la solution à tout ça, je vais poser la question à l'invité. Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place pour qu'ils puissent réussir à cette opération? Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place? Parce que vous constaterez que si une fois vous arrivez, la population riveraine, peut-être il y a des populations qui n'ont pas l'emploi, qui n'ont rien à faire. Ils vivent que de l'exploitation de bois, ils vivent que des activités de la forêt. Maintenant, aujourd'hui, si on leur dit que pour protéger la biodiversité, il ne faut pas couper les charbons, il ne faut pas faire quoi, il ne faut pas faire quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité pour réussir à cela? Deuxièmement, il y a une autre préoccupation. Pour réussir à ces projets, pour réussir à la biodiversité, il faut toujours associer la population riveraine dans tout ça. Vous constaterez peut-être, nous sommes ici à Kinshasa, il y a un projet qui est dans mon territoire de Wamba. Mais il n'y a pas l'association, on ne met pas l'associer la population riveraine dans ces projets. Or, la population riveraine ne peut qu'écouter, c'est les gens qui sont ensemble avec, et entre autres, les chefs coutumiers, les chefs de localité, et ainsi de suite. Et pour cela, j'ai dit à l'invité qu'il puisse un peu me répondre par rapport à ces questions. Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place pour réussir dans la lutte contre la biodiversité?
Merci beaucoup, M. Paulin. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa, mais vous êtes ressortissant du Wamba. Allons cette fois-ci à Manono pour donner la parole à M. Dieu. Merci. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, amis journalistes. C'est un sujet très intéressant. Nous constatons qu'il y a disparition de plusieurs espèces animales, même chez le poisson. Nous constatons le même problème. Maintenant, les invités qui sont sur le plateau, s'ils peuvent nous aider, avec mon prédécesseur qui vient poser presque la même question que j'avais, et le mécanisme. Parce que vous essayez de voir bien, ce sont les mêmes agents de l'État censés de protéger les espèces ou la biodiversité. Mais ce sont les mêmes agents engagés qui sont à la base. Je vais donner l'exemple de mon territoire ici. Il y a les agents, par exemple, de l'environnement, des services de l'agricole. Mais ce sont les agents, parfois, qui sont envoyés, par exemple, dans les eaux de pêche à protection. Mais ils vont favoriser peut-être l'utilisation de moustiquaires comme filet de pêche. Détruit même les œufs, détruit même des alevins, détruit même le petit poisson qui pouvait peut-être se développer pour faire du poisson. Aujourd'hui, vous allez trouver dans beaucoup de sources de pêche, là qu'étant, il n'y a plus de poisson. Ça, c'est un. Deux, nous avons le problème des animaux. Là, ici, les enfants de cette génération, pour reconnaître peut-être ou connaître seulement les lions, c'est tout un problème. Néanmoins, là où il y a des eaux, c'est peut-être un autre problème. Mais tout ça, l'État a déjà peut-être abandonné a déjà décliné de ses responsabilités. Pourquoi? Parce que nous avons un État qui commence à attendre seulement les ONG. S'il n'y a pas une ONG pour intervenir, l'État ne fait rien. Pourtant que ces ONG viennent appuyer l'État. Oh, nous n'avons pas de financement. Mais c'est l'État qui doit fournir des moyens pour qu'on protège, par exemple, le poisson, qu'on protège les animaux. Dans ces cas, peut-être même les générations petites peuvent trouver ça, c'est les lions, trouver des espèces qui viennent de disparaître aujourd'hui. C'est quel mécanisme vraiment que l'État peut mettre en place, et même les invités qui sont avec nous peuvent donner dans l'ensemble du pays où votre radio est écoutée, pour peut-être que les gens prennent connaissance et peut-être ils peuvent aider à remettre la conscience des gens par rapport à la destruction de l'environnement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Dieu. Merci. Nous rappelons que vous intervenez depuis les territoires de Manono. Donnons cette fois-ci la parole à Kasongo qui nous appelle de Kamina. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, Monsieur Dieu Dikachem.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Oui, moi je voulais juste poser une petite question à l'invité. Alors, je voulais qu'il explique l'importance, pourquoi on doit protéger les animaux pendant que Dieu les a créés pour les manger et les consommer.
Merci beaucoup, M. Kassongo. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Kamina. M. François, nous allons commencer par la question des Paulins, de Paulin Kabangu, qui est un ressortissant des Wamba. Il voulait savoir, parce que généralement, la plupart des cas, des projets qui sont mis en place, on n'associe pas la population locale. Et parfois, la réussite pose problème parce que les cahiers des charges n'est souvent pas respecté par les ONG qui viennent pour entreprendre des projets dans le secteur développement. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça?
Bébé.
D'accord, merci beaucoup. Comme j'ai déjà précisé, donc, dans ce projet, ce projet est vraiment pour le bénéfice des populations locales, pour les ayants droit dans et autour de la RFO. La réussite ne pourra se faire que si on travaille ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme de gestion durable de la faune cherche à aider les ayants droit des zones où on va travailler à protéger leurs ressources fauniques contre parfois des gens extérieurs qui viennent sans autorisation l'exploiter. Donc c'est vraiment à leur bénéfice ce projet pour à la fois assurer leur sécurité alimentaire et leur bien-être
Donc le projet ne va pas consister à les empêcher de recourir aux ressources qu'ils utilisent couramment pour les véhicules, pour satisfaire les besoins quotidiens. Mais vous allez également leur proposer des alternatives pour éviter qu'il y ait pression sur les ressources qu'ils prélèvent dans les aires protégées.
Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un projet qui interdit la chasse. C'est un projet qui veut gérer durablement la chasse pour que les générations futures puissent aussi bénéficier de ça. Et parallèlement, comme vous avez dit, on va aussi proposer aux communautés et développer avec elles les activités, d'autres activités alternatives qu'elles veulent développer.
Monsieur Deo, c'est l'auditeur des Kananga qui voulait savoir les types d'animaux que l'on peut qualifier d'espèces qui sont protégées par les instruments Nations Unies et ratifiés par les pays faisant partie, les pays membres des Nations Unies.
Oui, l'auditeur, je pense, il doit faire la différence entre les animaux que nous élevons autour de nos maisons ou dans les fermes et les espèces qui se retrouvent dans la forêt, mais qui peuvent être domestiquées, entre guillemets, au niveau des eaux ou d'adhérence des concessions privées. Mais quoi qu'il en soit, ces espèces, si ce sont des espèces sauvages, appartiennent toujours à l'État. C'est un bien public. Alors, pour moi, j'estime que les espèces qu'on doit protéger, c'est pas que c'est seulement celles qui sont protégés par les instruments nationaux et internationaux, mais le point de départ, c'est toute la faune. Même s'il peut y avoir un prélèvement qui est réglementé, qui est régi par différentes mesures ou mécanismes avec les communautés et les gestionnaires, mais c'est toute la faune sauvage qui doit être protégée. Il se fait qu'au niveau national, on peut mettre la liste de certaines espèces pour dire ces espèces sont menacées et nous pensons qu'elles doivent être protégées. Mais aussi au niveau international, c'est la même chose. Et ces espèces, ça signifie qu'on ne peut pas autoriser à quelqu'un de les chasser, quoi qu'il en soit, parce qu'elles sont protégées par la loi.
Et qu'est-ce que vous dites à l'auditeur qui a fait, qui a dit que les animaux là, ont été créés pour être bouffés, mais vous demandez à ce que l'on puisse les protéger alors qu'ils sont destinés à l'alimentation humaine?
Je pense que l'auditeur doit se rappeler que tout ce que nous avons, nous devons les gérer durablement. Et ce n'est pas parce qu'on a créé les animaux pour les manger qu'on doit tout finir. Les éléphants, on sait que le nombre a baissé de plus de 90% en RDC. Les hippopotames, 95%. Donc ça fait que même si on voudrait manger, on risque même de ne pas en trouver, qu'il faille assurer qu'on les protège afin que les générations futures puissent aussi avoir la chance de voir l'hippopotame, de voir les lions, comme avait dit pense que c'était il y a Dieu, merci, je crois, qui a
oui,
dit.
Des Manono, oui,
des Manono, qui a dit les enfants
ne connaissent plus, les lions, les animaux, certains animaux sauvages, et ils ne connaissent pas ça.
Oui.
Et également, il faut dire que la résolution des ODD, en fait, les ODD font en lision, dans son article 14, qui demande à ce que l'on puisse protéger la vie aquatique, et au niveau de l'article 15, de protéger la vie terrestre, et puis de lutter contre la pauvreté, et puis la consommation responsable des ressources qui sont disponibles à travers le monde.
Affirmatif.
Et donc, c'est très important que nous puissions, dans la gestion durable des écosystèmes, c'est toujours important de tenir compte de tous ces aspects-là.
Oui.
Donnons cette fois-ci la parole à l'ingénieur Serge, qui nous appelle depuis la ville de Kindu. Ingénieur Serge, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, c'est Serge King. Bonjour une fois de plus, mais aussi à l'invité du jour.
Nous parlons de la protection de la biodiversité. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
En tout cas, pour parler de la protection de la biodiversité en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Maniema, moi je dirais que, en tout cas, nous sommes en train de se faire mourir nous-mêmes en tant que les Congolais dans notre pays. Cela est dit à quoi? C'est-à-dire, du point de vue, je vais parler sur trois plans. Je vais parler de ce qui concerne, parce que l'exploitation des poissons, ça s'est fait au niveau de nos rivières ici dans la province. Vous verrez en sorte que quelqu'un qui met des produits toxiques dans l'eau, et quand il trouve des poissons, il se permet de pouvoir récolter ces poissons alors qu'il ne pense pas qu'un jour il peut encore avoir besoin de poissons. Il tire également les œufs qui pouvaient aussi produire en ce que nous puissions avoir des poissons. Loin de ça, nous basons plus par rapport à la forêt. À la forêt du côté de Balanga, ici, dans le territoire de Kailo, là, il y a le parc national de la Lomami. Je vous assure, monsieur le journaliste, bien sûr, l'ICCN a été venu pour sensibiliser les peuples autochtones. Je vous assure, ils étaient là en train de les conscientiser de pouvoir commencer à faire l'élevage des animaux domestiques. Comment est-ce qu'était leur réponse? Quand ils les donnent les porcs, ils les donnent la poule. Commencez maintenant à manger la poule et les porcs. Ça va vous permettre en sorte que vous puissiez protéger les animaux de la forêt.
Mmh.
Ils ont voulu, non, nous sommes habitués à manger les animaux de la forêt. C'est difficile de pouvoir continuer. Et là, les Blancs sont venus. Quand ils mettaient leurs pièges au niveau de la forêt, ils trouvent des animaux là. Les Blancs, quand l'animal est encore vivant, ils libèrent l'animal, ils laissent l'argent au niveau du piège là où le peuple autochtone avait fait son piège pour attraper l'animal. Ils laissent l'argent là, ils libèrent.
L'animal qui a été attrapé, oui.
Et donc, voilà. Et donc, nous-mêmes, nous ne savons pas comment, sur quel pied danser. Loin de ça, pour ce qui concerne de l'agriculture, pêche et élevage, on ne protège pas notre forêt. Aujourd'hui, pour avoir des braises, il fallait couper des arbres. Pour construire, il fallait couper des arbres. Maintenant, quel dois-je faire pour que nous puissions être à mesure de conserver notre forêt, voire même notre minerai, je vous assure, à Salamabila. Là, à Salamabila, il y a l'exploitation des Namoya Mining.
Merci beaucoup, ingénieur Kingi. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kindu, monsieur François. Et il y a ingénieur Serge qui fait allusion aux habitudes alimentaires. Il y a un projet qui a été développé dans cette partie du pays. Et malheureusement, les animaux d'élevage qu'on a proposé à la population dit, elle est habituée à manger la viande de brousse. Et parfois, c'est difficile de concilier protection de l'environnement, élevage et puis recours à l'alimentation à laquelle la population est habituée à manger régulièrement.
Oui, c'est vrai que la problématique de la viande de brousse est aussi très liée à la culture. Et c'est quelque chose qu'il est très difficile de toucher. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse que si justement les gens veulent pouvoir continuer de manger dans le futur de la viande de brousse, il faut que ça soit durable. Donc, comme a dit mon collègue, si on finit tout maintenant, il n'y aura plus rien dans le futur. Donc, il y a des initiatives aussi qui cherchent à comment.
Je crois qu'il faudra aussi aborder cet aspect des choses dans les volets sensibilisation de la population pour qu'elle comprenne également que c'est important d'utiliser rationnellement les ressources issues de la forêt. Monsieur Déo, un commentaire sur la réaction de l'ingénieur Serge.
Je crois qu'il a raison. À un certain moment, je pense qu'on doit amener la communauté ou la population à prendre conscience que la faune en question n'appartient pas à l'ICCN, ça n'appartient pas aux Blancs, mais plutôt c'est un bien qui appartient à la communauté, c'est leur patrimoine. Et si ce patrimoine arrivait à disparaître, à la fin, ils n'auront plus rien.
Et tous nous allons en pâtir.
Tout à fait. Mmh. Ils vont juste en train de faire des récits au lieu de voir l'animal qu'ils avaient chassé il y a une semaine ou un mois.
Monsieur Deo Kujirakuinja, je rappelle que vous êtes directeur technique à l'ONG WCS. Et donc, merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission consacrée à la protection de la biodiversité. Nous disons également merci à Monsieur François Sandré, qui est le coordinateur du programme de gestion durable de la faune sauvage au sein des WCS. Merci d'avoir été avec nous pour animer cette émission consacrée à la protection de la faune sauvage à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection de la faune sauvage.